Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Bon, la nouvelle du jour, bien sûr, c'est l'arrivée de l'usine, méga-usine Nordvolt au Québec, en Montérégie, à McMasterville. C'est un projet, évidemment, colossal et qui implique un potentiel de 7 milliards d'argent public. C'est un montage financier complexe qui s'étire dans le temps et ça va dépendre aussi des investissements de l'entreprise suédoise. Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que le Québec se positionne clairement comme leader de la filière batterie. Le premier ministre Legault a dit hier, on est à peu près à mi-chemin de ce qu'on souhaite en termes d'investissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en aura d'autres dans les prochains mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il va falloir augmenter la capacité hydroélectrique du Québec. Et hier, à Radio-Canada, M. Legault a laissé entrevoir la création de barrages. C'est pas la première fois qu'il en parle. Et j'écoutais ça, je me disais, s'il revient là-dessus, ça peut pas être l'inspiration du moment. Il doit avoir une commande quelque part à Hydro-Québec de regarder l'exploitation potentielle de certaines rivières pour en tirer de l'hydroélectricité. Je pense qu'on peut se réjouir quand même de voir un investissement de cette nature. Ça m'achale comme vous, quand on engloutit des fonds publics, mais c'est ça ou rien. L'entreprise, qui est une jeune entreprise, aurait pu très bien aller du côté américain. Les Américains qui sont très protectionnistes, qui soutiennent leurs industries puis qui veulent en attirer, auraient fait le même chèque. Donc, c'est un peu les gouvernements coincés qui sont obligés d'embarquer dans ça. Puis il y a une prise de possession dans l'entreprise nord-américaine et il y a des garanties. Donc, c'est pas un chèque qu'on fait en partant, mais des montants qui seront payés et peut-être à la hauteur de 7 milliards, mais au terme du processus. Et évidemment, les retombées économiques. Vous comprendrez qu'il faut faire bien attention avec ça, parce que des fois, on a tendance à s'exciter un peu. Mais on pense être capable de rentabiliser la mise du Québec dans peut-être, mettons, 10 ans, 9 ans. C'est ce que on a pu entendre hier. J'ai lu les réactions de l'opposition. Je comprends que c'est le rôle de l'opposition là, de critiquer le gouvernement. Mais quand Gabriel Nadeau-Dubois dit que M. Fitzgibbon parle de pénurie de main-d'œuvre et que si on n'a pas le personnel, parce qu'on parle ici quand même de milliers d'emplois, ben on va faire venir des immigrants étrangers temporaires. Et il dit, c'est pas être censé être des jobs payants pour les Québécois. C'est pas ce qu'il essaie de dire, là. On sait tous qu'il y a un problème de main-d'œuvre. Puis là, quoi, on va dire à un projet comme celui-là, non, parce qu'on n'a pas personne pour. On n'a pas d'employé potentiel pour vous. Je trouve ça un peu bizarre. La réaction des libéraux disent, ben, nous autres, on constate qu'il n'y a pas de logement, puis qu'on n'a pas de bras. OK, mais on arrête tout, là. On ferme les valves. Puis le Parti québécois a un peu le même genre de réaction. Je comprends que c'est leur job, là. Il y a des bémols qu'il faut souligner. Par exemple, c'est une jeune compagnie. Et c'est un investissement qui représente un risque. On est d'accord sur les grands principes. Virage électrique, batterie, le Québec devient un joueur mondial. C'est parfait. Mais son partenaire, c'est pas rien, mais c'est quand même une jeune entreprise qui a un niveau d'endettement élevé, qui a de grandes ambitions. Est-ce que ce sera un succès? On va se le souhaiter. Est-ce que c'est garanti? Pas du tout. Deuxièmement, on apprend ce matin par Radio-Canada que le BAP ne sera pas appelé à se prononcer sur ce projet. Là, tu dis pourquoi exactement? Ce qu'on comprend, c'est que il y a eu une modification à la réglementation. Et de telle sorte, je n'irai pas dans les détails techniques, mais grosso modo, ça permet à Nordvolt d'éviter le BAP. Donc, Bureau d'audience publique sur l'environnement, qui doit émettre des recommandations, faire un avis sur un projet d'une telle envergure. Est-ce que ça pourrait avoir lieu quand même? Peut-être. Le président de la compagnie a dit, je comprends la grogne, parce qu'il y a de la grogne à McMasterville. C'est petite municipalité qui voit arriver ce projet-là, de construction d'abord, puis un ajout de 3 000-4 000 personnes dans le coin, c'est un peu dérangeant. Puis je peux comprendre les inquiétudes. Donc, a l'intention d'aller voir les gens ou dans les prochains jours pour amorcer la discussion, pour que ça soit accepté socialement. Là, il paraît en tout cas que Nordvolt a fait des pressions auprès du gouvernement pour qu'on modifie la réglementation pour pas que le BAP ait à se pencher là-dessus. Alors voilà pour ce dossier. Maintenant, je reviens ce matin sur le double meurtre de Longueuil. Deux femmes qui ont été assassinées. Une femme de 67 ans qui est la mère de l'accusé, Marguerite Lemini, et la grand-mère, Marie Lamercy Lefebvre. Les deux femmes ont été retrouvées, vous le savez, assassinées dans un logement à Longueuil. Le fils, qui a 30 ans, qui a des problèmes psychiatriques connus, fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré. Et ce qu'on apprend, c'est que dans le passé, puis là, je fais abstraction des nombreux appels à la police, là. Il y a eu des accusations portées contre lui pour de la violence contre sa mère. Et dans les deux cas, ce sont des cas récents, là. Mois d'octobre 2022, par exemple. Alors, vous voyez que c'est assez récent. La mère a finalement refusé de témoigner. Le gars s'est fait évaluer par un psychiatre. Et là, on a dit, il est apte à faire face à la justice. Il y a peut-être un... C'est peut-être pas... Là, je vais prendre une expression commune, là. Peut-être pas le plus brillant, là, mais il est peut-être pas dangereux. Puis bon. Tous les témoignages qu'on entend depuis le début vont dans la même direction. Les proches, les voisins. C'est un gars qui faisait des crises, lançait des trucs, tentait de mettre le feu, était en chicane avec sa mère. Et sa mère essayait d'atténuer les choses. Quand la police débarquait puis qu'on l'arrêtait, ben, elle disait, moi, je vais pas témoigner contre mon gars. Et je retiens les propos ce matin dans l'article de la presse de son ancien avocat, maître Dominique Larose, qui dit qu'il aurait aimé avoir à l'époque une non-responsabilité en vertu de l'article 16 du Code criminel. Mais l'Institut Pinel, en fait, l'évaluation de Pinel, concluait qu'il était parfait. Là, ils vont le revoir et ils vont refaire leur devoir avec deux vies en moins. Bon, les psys vont vous dire, à l'époque, quand on l'a analysé, c'était la conclusion. Mais c'est ça le drame. Avec des jeunes adultes qui ont toutes sortes d'enjeux de consommation de drogue, de maladies mentales, d'états de psychose, et la violence qui est exercée sur les proches. Sa mère, dans la soixantaine, la grand-mère, autour de 80, tu te dis, à tous les jours, est-ce qu'il va déraper au point de me tuer? Puis ça va arriver comment, puis à quelle heure? Et il y a ces cas extrêmes. Il y a des cas de violence, de harcèlement, de stress que vivent combien de parents? Et on verra pour la suite de ce procès. Très bien, les vaccins, ben c'est la saison, bien sûr. Et hier, on a donné officiellement le coup d'envoi pour ce qui est de la vaccination COVID et grippe. Ça va commencer d'abord pour les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les gens qui sont dans les CHSLD, les maisons pour aînés, des résidences privées pour aînés, donc pour les personnes âgées. Mais tout le monde peut s'inscrire maintenant pour aller chercher un rendez-vous afin d'obtenir le vaccin. Et là, il y en a un paquet de vaccins. Fait que les antivax vont s'étouffer pas mal. Alors, vous avez la grippe, vous avez COVID, c'est celui de Moderna, celui de Pfizer a été approuvé, je pense, hier. On ne sait pas à quel moment il sera disponible. Et vous avez aussi un vaccin qui est disponible pour les enfants contre le virus, pour les enfants, contre le virus respiratoire syncytial, qui a été approuvé par Santé Canada. mais de ce que je comprends, lui, il faut payer. Toujours assez compliqué, les histoires. Qui paye, paye pas. C'est comme pour les tests. Encore hier, des gens qui me racontaient qu'ils sont allés en pharmacie, puis ils se sont fait dire, ben ici, vous payez. Si vous voulez pas payer, allez ailleurs. Dans un centre de dépistage, par exemple. Disons que ça demeure une drôle de politique. Et je sais que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que ça vaut la peine de se faire vacciner? D'abord, c'est une décision personnelle. On sait que les maladies respiratoires et les infections, on est en plein dedans, là, puis il y a quand même une certaine hausse dans les cas. Puis ça se traduit, dans la grande, grande majorité, par des symptômes qui sont pas agréables, mais on n'est pas face à une poussée d'hospitalisation. Et les gens que je connais qui ont testé positif à la COVID, ben ils ont été pendant 4-5 jours peut-être affectés avec une toux, avec une fatigue, avec un peu de fièvre aussi, maux de tête. Donc, les gens se sont retrouvés, disons, KO pendant un bout de temps. Et on le sait tous, le Dr Weiss le disait l'autre jour, le fait qu'on a été largement vacciné, qu'à peu près tout le monde a eu la COVID, ou en tout cas, pourcentage élevé, il y a une forme d'immunité qui se crée et que les symptômes sont quand même, disons, moins pires. Ce qu'il faut quand même regarder, c'est les gens qui souffrent de la COVID longue. Il y en a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui m'écrivent là, et qui disent que depuis 2 ans, la vie a complètement changé. Ils n'ont pas la même énergie, ils n'ont pas la même capacité de travailler, ils sont fatigués et ils savent pas trop pourquoi. Et on va parler avec le docteur Boileau de la santé publique plus tard. Est-ce que la recherche a évolué? Est-ce qu'on en sait un peu plus? C'est dur à dire pour l'instant. Maintenant, le SPVA m'a rendu public son bilan pour l'opération rentrée scolaire. Donc, on a donné plus de 6000 tickets autour des écoles. Il y a deux façons de voir ça. Est-ce qu'il y a eu une présence policière accrue, donc plus de tickets? Est-ce que les gens sont vraiment à ce point débiles autour des écoles? Il y a des gens qui passent devant les autobus scolaires alors que les panneaux clignotants sont allumés. Des gens qui font excès de vitesse. Autrement dit, tu sais, ce comportement absurde autour des écoles, quand tu vas aller reconduire ton enfant puis que t'es en retard, t'oublies qu'il y a d'autres enfants dans les coins. Donc, on va parler avec le responsable de toute l'opération, Stéphane Desroches, là, au SPVM. Là, c'est beau, au début de l'année, là, on comprend. Mais est-ce que les radars vont finir par s'installer? On sait que c'est la volonté de la mairesse de Montréal, puis aussi de la ministre Geneviève Guilbeault. Et quand vous regardez le bilan, quand il y a des accidents, des piétons sont tués, dans 33 % des cas, ce sont des poids lourds, dans 30 % des cas, ce sont des camions légers. Ce qui veut dire que c'est seulement 25 % des cas qui impliquent des voitures. Alors, c'est sûr que frapper par un poids lourd, frapper par même un camion léger, bien souvent, ça ne pardonne pas. Là, on a un piéton qui a été happé dans les dernières heures à Montréal, hier soir, dans l'Est. Alors, c'est évidemment toujours la même logique. Ce sont les piétons, les cyclistes les plus vulnérables. On a beau leur reprocher tout leur comportement délinquant aussi, là. Des piétons qui traversent ailleurs qu'aux intersections, qui ont des écouteurs, qui regardent leur téléphone, qui se mettent à risque. Il faut avoir des yeux tout le tour de la tête. Même chose pour des cyclistes qui respectent pas le code de la route. Je le sais, mais c'est une cohabitation dans une ville parsemée, j'allais dire de cônes, je devrais dire inondée de cônes, et des entraves, une circulation plus dense certains jours de la semaine. Alors, profite de la tribune ce matin pour faire ce rappel à la prudence. Bon, il y a encore des cachotteries à l'Hôtel de Ville de Montréal. La presse nous apprend ce matin qu'on a doublé le boni pour les 1800 cadres. C'est quand même un montant appréciable pour la Ville de Montréal. Donc, ça coûte à peu près 6 millions de plus. Et le boni est de 3 150 $ en moyenne par cadre, puis ils avaient déjà reçu 3 700. Et là, encore une fois, on plonge dans des explications assez dures à suivre. Ça va de, oui, mais c'est pour les récompenser du travail fait durant la pandémie, mais en même temps, il serait tenté d'aller vers le privé s'il n'y avait pas des meilleures conditions. Le problème, c'est qu'ils font ça sans le dire. cette maladie à l'hôtel de ville de cacher les affaires, de pas dire les choses clairement, puis après ça, ça s'enfarge dans les menteries puis dans les explications. Alors ça, c'est un autre exemple. La consigne, ça va passer à 10 sous le 1er novembre. Les bouteilles de vin, entre autres, pas tout de suite, là, c'est reporté à plus loin dans le temps. Et on pense qu'avec une consigne plus élevée, ben on risque d'améliorer la récupération comme ça, que les gens vont plus être portés de vraiment aller porter canette de boissons gazeuses, canette de bière, plutôt que de mettre ça dans le bac de recyclage. Également, il semble que depuis vendredi, ou en tout cas la fin de semaine, le gouvernement Trudeau essaie de sauver ses liens avec le gouvernement ukrainien, que M. Trudeau aurait parlé au président Zelensky, j'imagine pour s'excuser du spectacle désolant qu'on a eu la semaine dernière à la Chambre des communes avec ce vieux nazi. Et Mélanie Joly parle avec son vis-à-vis. On tente de faire en sorte que on fasse un peu moins dur sur la scène internationale, mais c'est sûr que depuis le début, c'est une vaste opération de propagande qui a été lancée, notamment par les Russes. Et vous dire aussi qu'avec Jean-François Lépine, on va entre autres parler ce matin, ça arrive souvent, ce phénomène-là, de la fermeture du gouvernement américain. C'est un jeu politique. Ce sont les républicains les plus à droite. Et ce qu'on appelle là-bas le fameux « shutdown », qui peut avoir des implications. Il y a des services qui sont pas donnés. Ça dure habituellement une assez courte période de temps. Mais là, c'est une partie de bras de fer entre républicains et démocrates. Et un mot pour vous dire aussi qu'on sait que le président Trump, c'est un jugement qui a été rendu, a surévalué sa fortune. On parle d'à peu près 2 milliards 500 millions. Et il est passible d'amendes totalisant 250 millions. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il serait obligé de vendre certaines de ses propriétés immobilières parce que s'il est coupable, donc, formellement, eh bien, tu perds le droit d'opérer des immeubles locatifs. Et je regardais ce matin ce qu'il risque de perdre, donc être obligé de vendre, c'est Trump Tower. Ça, c'est à peu près son symbole le plus important. Vous avez également, sur la 57e, il y a un autre immense immeuble locatif, Park Avenue, ça s'appelle Trump Park Avenue. On sait qu'il aime beaucoup se mettre en valeur. L'avenue des Amériques, également. Un club de golf dans l'État de New York à Hudson Valley. Alors, il serait obligé de se débarrasser de ça parce qu'il a menti, qu'il a gonflé la valeur des propriétés. Pourquoi? Pour, disons, avoir une capacité d'emprunt plus élevée, puis jouer aussi avec les assurances.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Alors, au lendemain de l'annonce de cet investissement majeur pour une méga-usine Northvolt à McMasterville, en Montérégie, nous recevons le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon. Monsieur Fitzgibbon, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
On va d'abord parler du projet comme tel. Québec pourrait, comme investissement, là, puis sous différentes formes, injecter jusqu'à 7 milliards dans l'entreprise. Quand on regarde ça, là, on dit c'est beaucoup d'argent, on comprend qu'on n'a pas le choix. Quelles sont les garanties que nous avons? C'est un investissement, puis un investissement, ça peut prendre une bonne direction ou une mauvaise direction. C'est quoi les garanties que le Québec a?
Bon, premièrement, je pense juste pour bien expliquer les chiffres, pour le Québec, le support financier va être de 2,9 milliards, qui se divise en deux morceaux. Le premier morceau, c'est le morceau qu'on parle souvent, nos prêts pardonnables. Alors, ce morceau-là, c'est 1,37, pour être précis, milliards. Après ça, il y a 1,5, qui est le fameux RRE. Je vais revenir sur tantôt. Si on parle du premier volet, 1,37 milliards, il y a un prêt là-dedans qui est de 800 millions, duquel 436 est pardonnable. Donc ça, c'est le 436, c'est une subvention, Un paiement qu'ils ne feront pas. Le reste du prêt, là, qui est 367 pour être précis, il est payable, repayable au gouvernement avec de l'intérêt équivalent au coût des fonds de M. Girard va être neutre. Donc, il y a 367 repayables en prêt. Il y a 436 qui est une subvention. Le reste, le 567, ce que j'ai négocié avec Nordvolt, c'est qu'on devient actionnaire de la mère, société mère. Pourquoi? C'est pour dérisquer le projet. Nordvolt a 6 projets maintenant dans le monde, dont celui du Québec. Donc, 1,4 milliard, il y a 400 millions de ça qui est la subvention pure. Le reste des prêts remboursables est liquidé en haut dans la mer.
OK, je comprends ça. Mais c'est une compagnie qui est jeune. C'est une compagnie qui, avec ses projets de construction, a pu t'en lire, a quand même un niveau d'endettement élevé. Je comprends que c'est un domaine porteur, mais c'est pas un prêt, ou en tout cas un investissement risqué pour le Québec.
Écoutez, c'est sûr que c'est une entreprise, c'est pas une start-up, elle existe depuis 2015. Les deux cofondateurs, M. Cerruti et M. Carlson, qui étaient à l'annoncière, deviennent de Tesla. La compagnie, moi, je suis allé en Suède il y a 2 semaines pour différentes raisons, dont voir l'usine. L'usine fonctionne, les cellules sont produites, elles sont vendues à Porsche, entre autres, et ça marche. Donc, oui, c'est un scale-up, excusez l'anglicisme, mais c'est une société qui a quand même fait ses preuves. Il y a toujours des risques. Mais la nouvelle de ça, c'est que le 1,37 milliard, moi, je vais rationaliser, nous avons rationalisé que l'investissement en équité est supérieur à la partie subventionnaire. Moi, je pense qu'en bout de piste, on va prendre nos billes. La société va probablement aller publique d'ici 1 an ou 2. Alors, moi, je pense que c'est un très bon investissement. Maintenant, le deuxième volet, qui n'a pas rapport comme tel, c'est un volet où le gouvernement fédéral a décidé, de concert avec les gouvernements de l'Ontario et du Québec, de faire 3 projets RRE. Bon, RRE, vous savez, c'est quoi? C'est le programme de M. Biden qui donne de la subvention à l'opération. Chaque cellule produite a une subvention. Non, c'est pas pour le bâtir l'usine, c'est après. Alors, ici, le gouvernement fédéral a mis un plafond de 4,6 milliards pour la durée du RRE. Donc, dans notre cas, ça va être payable en 2027, quand ils vont produire, jusqu'en 2032. Première nouvelle qui est importante, c'est que c'est un miroir. Donc, qu'est-ce qui va arriver aux États-Unis au niveau élection? Qu'est-ce qui va être le RRE? Il y a des gens qui pensent qu'il va être réduit, annulé, peu importe. Donc, nous, on va faire un miroir de ça. Si 2027, s'il n'y a plus de RRE, il n'y aura pas de cette subvention.
Mais je reviens à la première phase, là. L'entreprise investit combien, elle?
Ben écoutez, 7 milliards pour le côté investissement. Le gouvernement québécois met 1,37. Le gouvernement fédéral met 1,34. Donc, ça fait quoi? Ensemble, ça fait 2,7. Donc, Nordvolt va mettre 7 milliards moins 2,7. On va mettre
5 milliards.
Qui va venir de différentes sommes.
Bon, la grande question que les gens se posent, là, d'abord, est-ce que c'est vrai que le BAP a été ajusté pour qu'il n'y ait pas d'audience du BAP sur le projet, comme dit Radio-Canada?
Il n'y a eu aucun ajustement des règles pour accommoder Nordvolt. Maintenant, quand on regarde la filière batterie, on retourne en arrière, avec en cours, il y a des jobs là aussi, puis des emplois. Il faut comprendre que le Québec n'a jamais fait de batterie ou de composantes de batterie. Donc, il y a eu des ajustements faits dans le passé pour qu'on reflète qu'est-ce que représente une usine de cathode. Personne au gouvernement, avec moi-même, qui savait c'est quoi une cathode de 3 ans. Donc, les ajustements qui ont pu être faits dans les réglementations du BAP, c'est pour refléter ce que la filière représente. Mais je peux confirmer aujourd'hui qu'il n'y a eu aucun ajustement spécifique.
Est-ce qu'il y a eu une demande de Nordvolt pour ne pas avoir d'audience du BAP?
Non, Nordvolt veut respecter les règles. Vous allez les rencontrer sûrement, vous allez leur parler. C'est une société qui a beaucoup, beaucoup de respect des normes environnementales, on le voit en Suède. Donc, Nordvolt veut se... Évidemment, il regarde dans le monde. Il y avait 70 locations géographiques où il aurait pu établir leur usine en Amérique du Nord. Ils ont choisi le Québec pour différentes raisons, on peut en parler si vous voulez. Mais il veut comprendre c'est quoi l'environnement réglementaire. Il veut comprendre c'est quoi le BAP. Il a posé des questions pour comprendre, mais il n'a jamais voulu. Il a fait de pression, disait on ne veut pas faire de BAP. C'est une société qui est très, très responsable.
McMasterville, c'est une petite municipalité. Les gens sont inquiets parce que depuis des années, depuis la fermeture de la CIL, ben, l'environnement a changé. Là, ils voient le méga chantier s'en venir, puis 3 000-4 000 travailleurs se pointaient là tous les jours. Est-ce que, sur le plan social, dans le coin, c'est faisable puis acceptable?
Écoutez, premièrement, moi j'ai eu la chance de rencontrer les maires, les deux maires, M. Lessard et Dulac. En fait, ils sont allés visiter la Suède aussi, en même temps que moi. Alors, ces deux maires-là, puis hier, on avait une petite réception avec les gens de Nordvolt, puis il y avait le directeur général de McMasterville. Les gens sont super contents d'accueillir un tel projet, et ça va de soi. Certes, moi, j'ai eu des rencontres avec eux autres pour leur assurer qu'on était pour avoir, il y aurait un support du gouvernement. Ça donne que les deux députés dans les deux municipalités, c'est Jean-François Roberge et Simon-Jean Lebarrette, on est trois ministres, pour leur assurer, nous allons vous aider. Ministère du Transport, ministère de l'Habitation.
Parce que la 116, c'est déjà un cauchemar sans que le projet soit commencé.
Je l'apprends régulièrement. Alors, c'est sûr, vous faudra regarder tout ça, et je pense qu'on leur a assuré. Écoutez, c'est un projet transformateur pour l'économie du Québec, et évidemment pour les deux municipalités. On va les aider. Les logements. Moi, je suis un promoteur immobilier matin. Là, je pense que je salive un peu puis je dis, hey, ça va être intéressant de bâtir des logements. Alors, moi, je pense que naturellement, il va y avoir un écosystème qui va se construire. Clairement, il va falloir les aider. Clairement, et on va le faire aussi. Soit au niveau du transport, comment se rendre, le chemin de fer, non. Il y a un transport collectif qui est à Mont-Bruno, là, à Saint-Bruno plutôt. Il faut faire attention à comment est-ce qu'on va peut-être augmenter la cadence. Il faut parler à Mme Guilbeault. Donc, on commence. Là, mais c'est sûr qu'on va devoir les aider. Et oui, il y a des enjeux. Je pense que le dernier point, la société, maintenant que l'annonce a été faite, commence mardi matin pour rencontrer les citoyens. Alors, moi, je suis allé en Suède, là, à Skellefteå, qui est la ville où ils ont construit, et je peux vous dire que l'acceptabilité sociale de la ville là-bas, elle est là. Pourquoi? Parce que la compagnie a discuté, a présenté le plan. Moi, j'ai vu l'usine, on parle de décibels, on parle de visibilité. Alors, moi, je pense, laissons la société parler aux citoyens. Moi, je suis confiant qu'ils vont arriver à avoir un support.
Bon. C'est, quand on regarde les investissements déjà annoncés, les projets qui se confirment, là, ce que je comprends du premier ministre, c'est qu'on est rendu à 50% de l'objectif en termes filière batterie, c'est ça?
Ben, je sais pas si 50% c'est le bon chiffre. Ce que M. Legault a reflété hier, c'est que les projets qu'on a annoncés, c'est 15 milliards.
Puis qui veut 30?
Ben, il a dit qu'on a 30 parce qu'il m'a demandé c'est quoi la probabilité. En fait, on a 15 milliards d'annoncés, il y a un autre 30 milliards sur la table. Maintenant, il faut être réaliste. Tous les projets se font pas. Mais je peux vous dire, depuis...
Mais quand vous dites 30 milliards, là, c'est filière batterie?
Oui. On transforme l'économie du Québec. Maintenant, je ne dirais pas vous un matin qu'on va avoir 30 milliards. Premièrement, est-ce qu'on a l'électricité? Deuxièmement, à un moment donné, il va falloir penser aussi à d'autres projets industriels que je veux faire.
On ne peut pas mettre les œufs à la même place.
D'une part, vous avez raison. Mais en même temps, ça prend un écosystème qui va être performant. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les appels rentrent. T'sais, moi, en 2019, là, je suis parti avec mon sous-ministre, puis en Corée, au Japon, puis en Chine, Bécancour, puis Trois-Rivières, puis Montréal, là, ça compliqué un peu. Là. Aujourd'hui, les appels rentrent. Alors, c'est sûr que, d'ailleurs, Nordvolt est un projet qui solidifie ou complémente, cristallise la filière au complet. Maintenant, est-ce qu'on va avoir trois celluliers au Québec? La réponse est non. Je vais faire d'autres choses. J'ai d'autres visions pour d'autres projets industriels. On a un bon. On l'a choisi en passant. Mais alentour de tout ça, au Québec, là, ce qui se passe, là, c'est que si on prend Bécancour, on prend McMasterville et on prend nos mines là, dans Baie James, là, dans un territoire très, très restreint, c'est la première unité en Amérique du Nord où Nordvolt va dire, moi, je prends les minerais du Québec, puis je vais faire des cellules. C'est pas 100%, mais c'est pratiquement 100% qui viennent du territoire québécois. On n'a jamais vu ça.
La main d'œuvre. On en manque, là. J'ai des entrepreneurs qui m'écrivent depuis longtemps pour me dire, c'est pas juste les fermes, là. Dans les manufactures au Québec, on a un enjeu pour trouver des employés. Est-ce qu'on est capable de dire oui à ces projets-là puis d'avoir le monde pour travailler dans les usines?
Bon, écoutez, c'est clair qu'on connaît l'enjeu du Québec. On en parle depuis des années quand je viens ici. La productivité des entreprises au Québec, on sous-produit par rapport à d'autres juridictions. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez investi dans nos robots, automatisation, numérisation. Depuis quelques années, vous savez, on travaille des programmes chez Investissement Québec, ça s'appelle Productivité et Innovation. J'ai lancé un programme OTN, Offensive Transformation Numérique, pour accompagner l'entrepreneur pour voir qu'est-ce qui peut être numérisé. On a des sommes d'argent pour ça et c'est clair qu'aujourd'hui, on le fait depuis un bout de temps. Quand une entreprise vient nous voir et nous dit on va réduire le nombre de personnel pour produire plus, on est encouragé, on est excité, on supporte financièrement. C'est clair qu'il faut aller là et c'est clair qu'il va falloir y avoir une pression qui va se faire, mais c'est une pression qui est positive parce qu'il faut augmenter la productivité. D'autre part, on crée des emplois qui sont très, très bien rémunérés. Est-ce qu'on peut priver nos jeunes d'avoir accès à ces emplois-là parce qu'on n'est pas productif? Non. Alors, oui, il y a une pression qui va se faire, mais partout dans le monde, by the way, c'est pas juste le Québec. Alors, moi, je pense que ça va accélérer le besoin des entreprises de
s'automatiser. Là, je vais m'adresser au ministre responsable de Hydro-Québec. Hier, le PM a dit, ça va nous prendre des barrages. Là, on dessine pas ça sur le coin d'une table. Est-ce qu'il y a des plans de barrages qui sont en train d'être faits par Hydro-Québec? C'est quoi l'échéancier? C'est combien de barrages? Puis où?
OK. Premièrement, retournons en arrière, si vous me permettez. Clairement, nous avons Hydro-Québec a réalisé depuis un an ou deux que la demande hydroélectrique pour des projets industriels porteurs excède l'offre qui est disponible. Ça, je ne sais pas de nouvelles que je vous annonce.
Attendez, êtes-vous en train de vendre ce qu'on n'a pas?
Non, non. Pas vraiment. Je ne pense pas que Nordvolt, après 7 milliards d'investissements que leur investisseur serait commis au Québec s'il n'y a pas une garantie qu'il y aurait les mégawatts. Donc, la réponse est non. Je sais que quelqu'un a dit ça ce matin. J'ai vu un membre de position qui a dit qu'on vendait les ce qu'on n'a pas. C'est totalement faux. Maintenant, aujourd'hui, sur la table chez moi, j'ai centaines de projets, j'ai des milliers de mégawatts. On n'a pas pour ce projet-là. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a refusé les projets et les prochains projets, je vais attendre 3 mois.
Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez refusé comme projet?
L'hydrogène. J'ai fait d'autres projets que je ne m'entends pas parler directement. Une compagnie connue est venue me voir pour électrifier le bouilloire qui était au gaz naturel. Je leur ai dit, on n'a pas. Gardez le gaz naturel pour un petit bout de temps, là. Oui, on veut décarboner, c'est 2050 puis 2030. Là. Alors, allons-y, mollo. Alors, faut faire une sélection de projets industriels comme la filière batterie. Faut décarboner. Alors, M. Sébia, je le rencontre régulièrement, évidemment, a la liste de nos projets. Il lui regarde présentement quelle est l'offre additionnelle qu'il peut faire. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement l'éolien, vous comprenez ça. Ça veut dire du solaire possiblement. Ça veut dire peut-être de returbiner nos barrages existants, parce qu'ils sont vieux, les barrages. Puis si on les returbine, donc une autre turbine, on augmente la puissance. Plus d'eau dans la piscine, parce qu'on a deux réservoirs. Hein? On a Churchill, puis on a le Bay James. On peut mettre plus d'eau dans le réservoir pour plus turbiner. C'est pas la nouvelle énergie, c'est la nouvelle puissance. Barrage, on a été public disant que Hydro-Québec étudie, Mme Brochu l'avait dit, Petit Mécatina. On le regarde, ça, présentement. Il y a d'autres barrages potentiels, mais celui qui est vraiment sur la table à l'essai, c'est celui-là. Donc, M. Legault,
mais, non, mais ce que je comprends, là, c'est que vous vendez ce que vous avez, mais en même temps, vous vendez en fonction de ce que vous pouvez ajouter en termes de ressources, puis ça comprend des constructions additionnelles.
La nuance. Les projets pour lesquels nous n'avons pas aujourd'hui de visibilité sur l'offre additionnelle d'électricité, on ne les accorde pas. Il y a des gens qui m'appellent tous les jours. On a un projet vert intéressant, je l'ai dit, nous ne pouvons pas aujourd'hui vous l'allouer. Et avec M. Sébia, son plan d'action qu'il va nous présenter prochainement va faire état de quel nombre de mégawatts additionnels peut-on avoir au Québec dans les prochains 5 à 7 ans.
OK, mais est-ce que ça peut vouloir dire réactiver une centrale nucléaire?
Écoutez, tout est sur la table à dessin. On peut pas aujourd'hui, intellectuellement, ne pas tout regarder. Bon, nucléaire, c'est un débat en soi, on a déjà parlé. Moi, je peux vous dire, c'est clair maintenant que la planète ne se décarbonera pas sans nucléaire. De penser ça, c'est être naïf. Maintenant, le Québec, est-ce que nous, on veut en faire? C'est une autre histoire. Puis, il y a tout un débat sur ça, puis le débat aura lieu en temps et lieu. Mais pour l'instant, je ne suis pas ici pour vous dire on fait du nucléaire ou non. Je suis ici pour vous dire, M. Sébia regarde toutes les possibilités.
Mais, par exemple, le Devoir rapportait des entretiens que vous avez eus avec des syndicats chez Hydro-Québec où vous disiez, il faut que j'achète plus d'électricité à des promoteurs privés. Et j'ai cru comprendre que 2027, qui n'est pas très loin, là, on aurait peut-être des petits enjeux pour la consommation à l'heure de pointe au Québec.
Bon, là, non. Premièrement, je pense que je vais donner crédit à Hydro-Québec. La modélisation qu'ils ont faite de la demande résidentielle et commerciale. Commerciale, on parle des hôpitaux, on parle des écoles. Il n'y a pas de problème dans les prochains 15 ans. Hydro-Québec a alloué les mégawatts pour ces projets-là, et le gouvernement, évidemment, n'ira pas jouer là-dedans. On parle uniquement des projets industriels. Donc, est-ce qu'il est possible que le gouvernement du Québec, que mon ministère, en l'occurrence, refuse des projets très porteurs pour le Québec? Oui, c'est possible. Et on va le faire si on n'a pas d'électricité. Maintenant, je veux pas être alarmiste parce que, en fait, je suis un peu plus jovialiste qu'alarmiste, mais je regarde les gens à qui je parle, puis il y a des gens qui me disent, OK, vous êtes en train de me dire, M. Fitzgibbon, vous allez avoir de l'énergie verte en 2028-2029. On va attendre. On va attendre. Parce qu'il faut pas non plus, c'est négatif, là, ça paraît négatif, on manque d'électricité. Mais il faut voir le côté positif. Je regarde les autres juridictions, là, on se bat contre tous les États américains, on se bat contre l'Europe. Moi, je pense que le Québec, on a un avantage comparatif. Et oui, on va augmenter dans le temps les ouvrages ou l'énergie verte. Et à mesure qu'on les augmente, on va avoir une visibilité, ça va être quand. Et moi, je peux moduler les projets par rapport à ce qui va être disponible.
Okay.
Moi, je
pense vous garantissez aux Québécois qui vous écoutent ce matin, là, que dans tout ce processus de développement puis d'ajout de sources d'énergie, il n'y aura jamais d'enjeu pour la consommation courante le matin à l'heure de pointe, le soir à l'heure de pointe?
Jamais. Jamais. Ça, je peux même m'engager sur ça. On va arrêter le projet industriel si c'est le cas, c'est pas le cas. Maintenant, vous amenez un point intéressant par contre. Faites attention. Quand on parle des voitures électriques.
Ouais.
Là, on parle de voitures. On a tout trop passé. On n'ira pas le matin, mais s'ils sont toutes électriques.
La dernière fois que vous êtes venu, vous vidiez le parc automobile de moitié. Vos collègues étaient un peu étonnés.
Alors, ça revient à l'autre question. Alors, si les 5 millions de véhicules au Québec deviennent électriques, il va y avoir un problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va s'arranger, on va avoir des chargeurs intelligents. Ça veut dire quoi? On arrive chez nous, boum, on met le chargeur dans la voiture, puis ouais, il faut partir à 2h du matin. Puis le matin, à 5h, on alimentera les grippins de nos enfants. Il va y avoir de la pression, mais là, la pression va venir de l'électrification ou de la décarbonation du Québec. Mais le chauffage, les hôpitaux, les écoles, ça, je peux vous dire ce matin qu'il n'y aura pas de problème
parce
de
que, chauffage. OK, parce que l'image qu'on a, là, c'est que Sophie Brochu avait fait un plan stratégique. Là, vous arrivez avec Michael Sabia, puis là, le plan, il est déjà périmé parce que vous avez bien des projets. Puis là, on se dit, OK, c'est correct, là, mais le client numéro un, c'est le Québécois, lui. Puis il veut juste savoir si vous allez prendre son électricité pour la vendre à quelqu'un d'autre.
Je comprends très bien la question, puis c'est très légitime. La réponse est non. Le Hydro-Québec a fait un travail extraordinaire pour modéliser les besoins des citoyens, avec la démographie, l'immigration, les besoins des commerciales. Malheureusement, Hydro-Québec n'avait pas tenu en compte les projets industriels porteurs pour le Québec. Le travail de Michael Sabia, c'est de voir à quel coût peut-on produire l'électricité additionnelle et moi, de l'autre bord, avec les clients, dire à ce coût-là, êtes-vous prêt à faire votre projet? Et moi, je suis jovialiste et je pense que l'avantage Québec que nous avions, que nous avons encore, qui est retardé un peu à cause des projets qu'on va devoir faire, ben on va équilibrer ça, on va garder la séquence des événements, puis moi, je pense qu'on va continuer à avoir une progression peut-être moins rapide qu'on a eu dans le passé, mais bon, on va s'ajuster avec...
Et vous avez l'intention de diversifier, si j'ai bien compris.
Absolument. Moi, j'ai la même vision économique de Québec, c'est qu'il faut, on a parlé des zones d'innovation jadis, vous et moi, il faut trouver des secteurs où le Québec va être champion du monde. Et je pense que la filière batterie, c'est le leg qu'on va laisser. Maintenant, l'aluminium vert, on n'a pas parlé, on va en parler un moment donné, pendant une couple de mois, là. Et on a de l'ambition énorme avec ces projets-là. Si on est capable de faire l'aluminium vert, ils vont en avoir l'électricité. Est-ce qu'on pourra faire un jour de l'acier vert? On fait pas d'acier au Québec. Là. On prend nos fosses de bras d'or, on envoie ça dans des pays étrangers avec des boulettes. Là. Maintenant, on peut-tu avoir la vision de dire on va faire quelque chose? Alors, tous ces projets-là, c'est énergivore, il faut avoir une diligence pour l'occasion.
Monsieur Fitzgibbon, merci d'être venu ce matin. Pierre Fitzgibbon est le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Alors, campagne de vaccination qui est lancée, la cible première, bien sûr, les personnes âgées qui sont dans les résidences. Et globalement, les Québécois peuvent s'inscrire avec la nouvelle mouture du vaccin qui est maintenant disponible. Le docteur Luc Boileau de la Santé publique nationale, directeur national, est avec nous ce matin. Docteur Boileau, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcand.
Juste comprendre deux, trois éléments techniques pour commencer. Le vaccin qui est disponible, c'est celui de Moderna. Est-ce que Pfizer s'en vient?
Pfizer s'en vient. Il a été homologué hier par Santé Canada. Donc, on devrait le recevoir dans les prochaines journées, semaines. Mais il va être disponible tout autant que le Moderna là, dans tous nos centres, aussitôt que possible. Là, parce qu'on est déjà en train de livrer le Moderna partout au Québec. Alors, l'autre devrait suivre rapidement.
OK. Là, au total, il y a combien de vaccins disponibles? Il y a COVID, il y a la grippe, il y en a combien?
Ben, il y a plusieurs vaccins disponibles au Québec pour différents programmes. Vous le savez, pour les enfants, les personnes âgées, on a ajouté du Zona. Mais actuellement, pour répondre à votre question, je pense pour les virus respiratoires, c'est vraiment l'influenza, le COVID, ou la COVID plutôt, ou le vaccin pour la COVID, mais là va s'ajouter le Pfizer, qui est la même formule là qui vient chercher le variant qui circule ou les variants qui circulent actuellement. On a aussi le pneumocoque, qui est pour les personnes plus âgées de 65 ans, donc on donne une fois. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment très spécifique. Alors ce sont les principaux vaccins que nous avons pour le bénéfice des infections respiratoires.
Et tous ces vaccins-là sont gratuits?
Tous sont gratuits partout, sont gratuits pour tous les citoyens du Québec, même pour ceux qui ne sont pas des Québécois, là, qui viennent d'ailleurs du Canada, et même pour les personnes qui viennent d'ailleurs sur la planète et qui sont ici, peuvent profiter de la vaccination, parce que c'est quelque chose qu'on veut là, qui se répartisse pour éviter d'augmenter la contagion, bien sûr, mais surtout les risques pour les personnes qui sont les plus fragiles.
Bon, vous parliez de ce virus-là, ce vaccin contre le virus respiratoire syncytial qui a touché, on le sait, l'an passé, bon nombre d'enfants, mettant de la pression sur les hôpitaux. Il n'y a pas de campagne nationale. Est-ce que c'est un vaccin qui va être facilement accessible? Puis est-ce qu'il va être gratuit?
En fait, pour le VRS, le vaccin est disponible actuellement en pharmacie. C'est une compagnie là, qui le fait homologuer puis qui le rend disponible partout là, au Canada. Les Ontariens ont décidé de le donner pour les personnes âgées hébergées. Nous, ce n'est pas la décision que nous prenons en ce moment. Le comité d'immunisation du Québec, présidé par Dr Couache et beaucoup de scientifiques autour, jugent qu'on n'a pas assez de données là, pour en proposer de l'utiliser pour un programme public. Alors, on regarde ça encore. Personne ne se traîne les pieds là-dedans. C'est comme ça partout aux États-Unis, partout au Canada. Il nous manque de données pour vraiment confirmer qu'il y aurait un avantage réel. Alors, on ne comprend pas là, pourquoi le gouvernement ontarien va de l'avant avec ça, là, mais c'est leurs affaires. Nous, on est très solides dans nos réflexions et je peux vous assurer que nos équipes d'expertise du Dr Couache au premier plan, mais tous les autres qui travaillent avec sont très, très solides et ils savent comment bien nous conseiller.
Ça veut dire que pour l'instant, donc, il est pas sur un programme de vaccination nationale, mais il pourrait le devenir si les études sont probantes.
C'est ça, mais il ne l'est pas pour l'instant. Puis c'est pas un vaccin qui cible les enfants. Vous savez, le VRS là, l'année passée puis les autres années, on l'entend beaucoup pour les enfants. C'est ça qui a fait gonfler là, les attentes et puis les hospitalisations à Sainte-Justine entre autres, au Montreal Children's. Tout ça. Donc on est vraiment dans un spectre très enfant, mais ça peut atteindre les personnes plus âgées. Il peut avoir un bénéfice. On a quelques cas par année de décès, mais on n'est pas certain que ce vaccin-là va vraiment atteindre des objectifs de réduction des risques pour tout le monde. C'est ce qu'on veut plus maîtriser. Puis il est pas donné, hein. Il est 230$ la dose. Alors actuellement, on ne le met pas sur nos programmes, mais ça ne veut pas dire que les autres années, on n'arrivera pas avec cela. Mais pour l'instant, on ne juge pas que c'est à propos. On a vraiment nos préoccupations, c'est sur la COVID, l'influenza, et c'est ceux-là qu'on mise actuellement.
Est-ce qu'il y a un enjeu à recevoir plusieurs vaccins? Par exemple, recevoir vaccin COVID puis vaccin influenza?
Pas du tout. On a expérimenté ça très confortablement les quelques récentes années, là, parce que les vaccins COVID n'existaient pas avant. Alors, l'année passée, on le faisait en même temps. Tout le Canada, les États-Unis, en fait, partout dans le monde, on le faisait en même temps. Il y a aucun problème. Il n'y a aucune étude qui a montré qu'il y avait une différence notoire sur un aspect ou sur l'autre. On a un système immunitaire capable de capturer pas mal d'agressions régulièrement. Là, on se promène, on mange n'importe quoi, tout ça. Mais vraiment, pour les vaccins, là, il n'y a aucun souci. C'est pas un problème du tout.
Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vont dire « J'ai eu, par exemple, 3 doses du vaccin. J'ai même eu la COVID. J'ai-tu vraiment besoin d'un autre vaccin? »
Les gens qui vont dire ça et qui sont, pour la grande majorité des gens qui sont moins de 60 ans, il n'y a pas de souci pour nous. On ne veut pas les forcer à venir se faire vacciner. Ils peuvent avoir un bénéfice à cela. Mais une personne qui est plus âgée ou encore une autre qui a une maladie chronique, qu'il soit un enfant ou un adulte, une immunosuppression, toutes ces personnes-là vraiment devraient bénéficier de la vaccination. C'est eux qu'on vise parce que même si on a fait une COVID dans le passé, à moins que la COVID soit très récente, habituellement on attend 6 mois pour bénéficier de la vaccination, ou qu'on a été vacciné, oui, on a une certaine immunité, mais là, en ce moment, le virus remonte, c'est des variants différents, et puis notre immunité tombe avec le temps. Après 6 mois, là, c'est moins efficace. Donc, ces groupes-là, ils sont vraiment invités à en profiter. J'ajoute aussi les femmes enceintes et les travailleurs de la santé, ou les parents de jeunes enfants, des petits bébés là, de moins de 6 mois, eux, une vaccination contre l'influenza, c'est bien pour éviter que leur enfant soit en contact avec l'influenza. Donc, on maîtrise bien tout ce paysage-là, mais on vient pas chercher tous les Québécois. On vient chercher vraiment ceux qui sont à risque. Et avec ça, on va très bien s'en sortir et eux vont mieux s'en sortir.
Parlons des tests. Ça semble un peu complexe. D'abord, est-ce que tous les tests ont été distribués? Avez-vous vidé les entrepôts puis envoyé ça dans les centres de dépistage puis dans les centres de vaccination puis dans les pharmacies?
En fait, on en a beaucoup dans nos entrepôts, mais tous les centres de dépistage ou les centres de services locaux, là, maintenant qu'on appelle, en ont tous abondamment dans les écoles, les garderies, les écoles secondaires, les CPE, tout ça, c'est très largement distribué. On en a également en pharmacie. En pharmacie, vous savez, on le donne aux personnes chez qui on anticipe qu'on peut donner le Paxlovid, qui est un médicament que si on le donne rapidement au début, pour des personnes qui sont très à risque avec toutes sortes de maladies ou de conditions de santé, les pharmaciens sont excellents pour juger de ça. On a le meilleur système au monde actuellement pour donner le Paxlovid. Alors, on veut être sûr qu'on donne ça à quelqu'un qui a une COVID. Alors, c'est pour ça qu'on offre les tests gratuitement de ce côté-là, parce que ça ne sert à rien de donner ça pour d'autres maladies. Là. C'est
non,
vraiment
mais
pour la COVID.
Ce que je comprends pas, c'est que des auditeurs, par exemple, me disent, on est allé à la pharmacie, puis on nous a dit, c'est 42$ pour des tests.
Oui, ça, c'est parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas toutes les conditions requises pour aller chercher les boîtes. Donc, c'est pas quelqu'un qui est malade actuellement ou qui fait partie de programmes spéciaux.
Oui, mais attendez, mais juste comprendre une affaire. Si cette même personne va dans un centre de dépistage, ne paiera pas pour avoir les tests.
Il va les avoir gratuitement. Parce qu'il y a un coût, monsieur Arquin, excusez-moi, mais il y a un coût de donner des boîtes gratuites dans une pharmacie. Le pharmacien, on s'entend toujours bien avec les pharmaciens, mais le pharmacien demande d'avoir des honoraires lorsqu'il donne une boîte gratuitement. Alors pour ça, ben faut calculer ce que ça vaut. Puis pour nous, actuellement, le réseau de distribution très large que je viens de vous décrire suffit. D'autant plus, si vous me permettez, qu'on ne cherche pas à ce que tout le monde se teste tout le temps pour savoir si c'est une COVID, si c'est pas une COVID. La plupart des gens, maintenant, c'est si on fait une infection respiratoire, ben on se protège, bien sûr. On reste à la maison si on est malade, mais si on sort, qu'on est obligé de sortir, on porte un masque tout le temps qu'on a des symptômes, que ce soit une influenza, un entérovirus, une COVID, un VRS. Donc, on n'a pas besoin de se tester. On fait un test pour le savoir, les gens, c'est correct, c'est une curiosité qui est tout à fait adéquate, mais c'est surtout chez ceux chez qui on veut avoir un traitement
non, mais ça,
rapide.
Je regarde l'Ontario, là. Des auditeurs qui vivent en Ontario en trouvent chez Walmart, en trouvent à l'épicerie. C'est gratuit. Il n'y a jamais personne qui s'est fait dire c'est 42$. Mais semble qu'on. Puis c'est juste parce que les pharmaciens vous demandent de l'argent qu'il n'y en a pas gratos en pharmacie, de façon générale.
Oui, mais il y en a déjà gratuits en pharmacie pour des groupes ciblés.
Oui, mais pour le monde en général.
Mais pour le monde en général, ben c'est parce que nous, on a jugé que notre réseau de distribution, quand je dis nous, là, je parle des équipes, là, c'est pas moi qui juge de tout cela, là, mais les équipes qui sont vraiment des gens qui travaillent très bien, ont jugé que notre réseau de distribution était solide. Il y a un coût aussi associé à ça, monsieur, et je peux vous rappeler pour tout le monde qui nous écoute actuellement, c'est que plusieurs ont des boîtes à la maison. Beaucoup, beaucoup de monde ont ça. Elles sont toujours bonnes. Elles sont bonnes malgré que c'est écrit là, que ça dure jusqu'à je sais pas quand. C'est pas vrai, mais ça continue à être bon.
OK, mais ça, c'est une bonne question, là, parce que les gens qui ont des boîtes, là, c'est marqué date d'expiration, là, décembre, janvier, même février.
C'est pas vrai. Oui, c'est vrai que c'est écrit ça, excusez-moi. C'est écrit ça, mais c'est encore bon. Ne vous inquiétez pas. Que les gens ne s'inquiètent pas. Nous avons fait des vérifications et on avisera au cours de 2024 s'il y a lieu, si les boîtes devaient être réellement périmées. Mais pour l'instant, nous n'avons aucun souci. Les boîtes sont toujours bonnes pour toutes celles qui circulent au Québec, dans les maisons ou partout.
OK. Pour ce qui est de la vaccination, il y aura vaccination en pharmacie aussi. Ça va être possible?
Tout à fait. Il y a presque 1500 pharmacies qui s'ajoutent à l'arsenal des centres, des points de service que nous avons. Alors, ça, c'est en même temps. Dès le 10 octobre, là, la distribution devrait avoir été complétée. Puis c'est pour ça que les gens peuvent prendre un rendez-vous dès maintenant pour obtenir ça, que ce soit dans une pharmacie à proximité ou dans un centre de vaccination ou de points de service locaux. Tout est bien clair sur le site. Et ceux qui ont de la difficulté à fonctionner avec ce site, il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler et puis avec ça, les gens devraient avoir un excellent service et puis se permettre là, d'être bien confortés pour la prise de rendez-vous.
Question qui revient souvent des auditeurs. La COVID longue, qu'est-ce qu'on sait de ce phénomène? Des gens qui disent qu'ils sont épuisés, fatigués, qui traînent ça depuis 6 mois, un an et demi. Est-ce qu'on en sait plus maintenant qu'avant?
On en sait plus parce qu'on a plus de recul. On a d'excellents chercheurs qui travaillent là-dessus, en l'occurrence Dr. Falcone est ici là, à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Alors, on en sait plus. On sait que c'est une disposition qui arrive malheureusement dans probablement au moins 10 % des cas de COVID, sinon 15 %. Ça peut durer. En fait, notre définition, c'est si ça dure plus de 3 mois. Alors, ça dure pas toujours 3 ans. Il y en a quelques-uns qui, malheureusement, ont une charge de problèmes qui dure depuis le début. Là. Certains, ça fait plus de 3 ans. Mais il y a beaucoup d'avancées lentes qui se font. Alors, on a toutes sortes d'indices qui nous montrent qu'on pourrait peut-être obtenir des succès avec quelques approches prochainement, mais c'est à suivre avec attention. Il n'y a pas de breakthrough, là. On n'a pas découvert quelque chose qui va nous changer la donne, mais on travaille là-dessus à travers pas juste au Québec, à travers le monde. Alors, ce sont des grands réseaux de chercheurs et de cliniciens qui s'y affairent. Et ici, au Québec, on a une bonne quinzaine de centres spécialisés qui offrent les services pour accueillir ces personnes, bien diagnostiquer, offrir tout ce qu'il faut comme service ou comme orientation pour aider ces personnes. Mais c'est un problème. On n'a pas ça avec d'autres virus respiratoires. C'est pour ça que bien se protéger, c'est pas une mauvaise idée.
Docteur Boileau, merci. Bonne journée.
Merci beaucoup, cher Quentin, et bonne journée.
Docteur Luc Boileau, qui est directeur national de la santé publique.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Parlons maintenant des opérations menées par le SPVM lors de la rentrée scolaire durant la période du 28 août au 22 septembre. Il y a plus de 6000 constats d'infraction qui ont été remis à des conducteurs dans ce qu'on appelle les fameuses zones scolaires. Stéphane Desroches est avec nous, c'est le commandant et chef de la section de la sécurité routière au SPVM. Monsieur Desroches, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcand.
D'abord, 6000, là, c'est un record en termes de constats d'infraction pour un début d'année scolaire?
En fait, dans une période prédéterminée, oui, c'est un bon volume de constats qui a été émis, oui.
Et est-ce que c'est parce qu'il y a eu plus de policiers déployés? Autrement dit, est-ce qu'on a été plus intense cette année que les années précédentes?
Ben, il y a une intensité qui était là, assurément. Il y avait une préoccupation de vraiment maximiser nos interventions en cette période de rentrée scolaire pour envoyer un message fort à la sortie de la période estivale. Et ramener les bonnes habitudes de conduite aux abords des écoles, effectivement.
Quand vous dites ramener les bonnes habitudes, là, ça veut dire quoi? Que les bonnes habitudes, on oublie ça vite?
Ben, en fait, en période estivale, il n'y a pas de zone scolaire en soi. Les écoles sont pas actives. Donc, c'est vraiment de revenir avec un message fort, comme je l'ai dit, pour que les gens soient vraiment sensibilisés au fait que, bon, la rentrée est recommencée. Il y a des limites de vitesse qui sont là à respecter. Il y a des zones scolaires qui sont à respecter. Et le message doit être clair pour éviter toute victime.
Est-ce que c'est vrai, sans doute pas comptabilisé, là, mais avec votre expérience, que souvent ce sont des parents eux-mêmes qui roulent vite dans les zones scolaires?
Effectivement. Il y a une partie des gens qui commettent les infractions qui sont les parents. On ne peut pas nier ça. Souvent, on est pressé, mode de vie en accéléré, la cloche sonne, on veut arriver juste à temps pour amener les enfants. Donc, il y a des comportements qui se développent. Et oui, les parents contribuent à certaines incivilités routières, si je peux me permettre.
Un des éléments qui m'a assez frappé au chapitre des infractions, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne s'arrêtent pas, même si l'autobus, par exemple, a actionné les fameux stops rouges qui sont très visibles, on peut pas le manquer. Il y a des gens qui, quoi, ils passent tout droit puis ils s'en occupent pas.
Effectivement, passent tout droit. Vous avez, là, dans le bilan, le 90 constats qui ont été remis durant la période, là, le mois où on a intensifié nos opérations. Donc, il y a encore des gens qui comprennent pas ce message-là.
Ils comprennent pas ou ils savent, mais...
C'est une bonne question. Il y a une conscientisation qu'il faut qu'il soit fait de la part des conducteurs et des usagers de la route à respecter les règles de la sécurité routière.
Dans certains quartiers, puis je pense ici, là, pas loin au centre-ville, dans le Ville-Marie, là, où il y a une jeune fille, on le sait, qui malheureusement est décédée, ils ont fait des réaménagements pour rendre ça plus sécuritaire. Et beaucoup de gens ont partagé sur les réseaux sociaux, appelons ça le comportement tout à fait insouciant. Il y a maintenant, par exemple, un interdit de tourner. Les gens tournent pareil. Est-ce que vous sentez qu'il y a plus de gens stressés au volant, qu'il y a une délinquance plus prononcé qu'avant. C'est comme, message est clair, tu peux pas tourner, mais ils tournent pareil, ça les dérange pas.
Le message est très clair, puis malheureusement, parfois, pour certains usagers, certains conducteurs ou usagers de la route, le message passe pas. Et c'est là nos interventions en matière de sécurité routière et d'émissions. Ce qu'on sait, ben, ça fait partie du travail policier. Puis là, on dit 6200, oui, c'est plus que les autres années, mais c'est quand même un bon nombre d'infractions qui ont été détectées par rapport aux autres années. Donc, c'est un beau bilan de réalisation pour le SPVM en matière d'intervention.
Ça veut dire qu'il y a du monde
délinquant pas un peu, là? Ben, tout à fait. Il y a encore des gens pour qui le message passe pas. Et là, c'est encore, comme je l'ai dit, c'est on conduit une tonne de métal versus un piéton ou un cycliste ou un usager vulnérable. Il faut être conscient des impacts, c'est le cas de le dire, de ce que ça peut produire et respecter les règles. Il y a toutes sortes d'interventions qui sont faites. Vous avez parlé de signalisation qui a été augmentée. Tout à fait, la ville contribue à sécuriser le réseau en collaboration avec le SPVM. Quand il y a des collisions, il y a des analyses qui sont faites pour ramener ça, de la signalisation. Puis nous, nos interventions ponctuelles, vous comprendrez qu'on peut pas être partout. Les policiers peuvent pas être partout, mais il y a une responsabilisation de la part de l'usager, comme je l'ai mentionné. Puis nos interventions, on tente de maximiser, l'organisation tente de maximiser ses interventions à travers les autres priorités qui où il faut intervenir. Donc, il y a tout le monde...
Mais j'ai quelques questions très larges. Est-ce qu'il y a vraiment des zones plus à risque à Montréal à cause de la configuration? Il y a plusieurs années, on m'avait dit... une liste d'à peu près 4-5 intersections, là, la façon dont c'est fait, compte tenu du nombre de personnes qui y passent, ça, c'est des coins à risque. Est-ce qu'il y a encore ça?
Bien, il y a des endroits qui sont plus accidentogènes, effectivement. Et là, la réflexion, c'est quand il y a une détection de ces endroits-là, de par nos agents de quartier en sécurité routière, de par une collision, les enquêteurs collision, les reconstitutionnistes qui détectent des enjeux d'infrastructure, elles sont rapportées immédiatement. Il y a aussi un comité qui est là, une équipe post-collision mortelle en collaboration avec la ville qui est là, qui dans les 5 jours d'une collision d'envergure va se pencher sur des problématiques d'infrastructure.
Quelles sont les intersections là, que vous pourriez me dire ce matin là, qui sont, disons, où il se produit plus d'accidents qu'ailleurs?
Écoutez, de façon là, ponctuelle comme ça, là, c'est sûr qu'il y a des enjeux, vous l'avez dit, dans Ville-Marie, il y a certains enjeux, il y a eu des enjeux de vous élaborer toutes les problématiques, là, je suis pas en mesure de vous répondre là, de façon précise là, sur une intersection précise. Là.
Mais il y en a.
Mais il y en a, effectivement. Effectivement. Puis du moment, comme je vous l'ai dit, du moment qu'elles sont détectées, il y a une intervention qui est faite, assurément.
La présence d'un radar, est-ce que ça aide? Est-ce que c'est dissuasif vraiment?
Vous parlez de radar photo?
Radar photo.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Le radar photo, puis là, c'est un dossier qui appartient au MTMD. Vous comprendrez, là, il y a une contribution de la Ville puis du SPVM dans ce projet-là. Mais oui, il est démontré qu'aux endroits où il y a des radars photo, il y a une baisse des collisions de 30 à 40 %. Donc, ça, c'est les statistiques qui parlent. Et oui, au SPVM, il y a une volonté. La ministre a fait une annonce de ministre Guilbeault dans son plan d'action 2023-2028 d'amener plus de radars photos au niveau du territoire. On est une métropole. La contribution du SPVM au niveau des radars photos.
Vous, on vous les fournit, là, vous savez où les mettre.
En fait, il y a des balises, puis là, comme je vous dis, c'est un projet MTMD, là, mais il y a des balises qui sont énoncées sur les opérations du radar photo des ACA, les appareils de contrôle automatisé, où on a des balises claires d'opération de ces appareils-là. En ce moment.
Puis ça change le comportement.
Ça change le comportement, oui. Dans le sentiment d'être... parce qu'on a des endroits où c'est fixe. Il y a des ACA qui sont fixes. On a une flotte qui est mobile. Puis aux endroits où on peut opérer, bien effectivement, les comportements changent.
OK. Un autre volet que je veux aborder avec vous, là, parce que j'entends mes auditeurs dire ça. OK, l'automobiliste, là, les radars, puis c'est vrai, puis c'est plus dangereux, comme vous l'avez dit tantôt, là, un poids lourd, un véhicule léger, une auto, bon. Le comportement dangereux de certains piétons, que moi j'observe, comme tout le monde, là, qui traverse avec des écouteurs dans le milieu d'une rue, qui est... Bon. Est-ce que vous intervenez ou c'est pas une priorité?
Il y a des interventions qui sont faites. Comme je vous dis, quand je parle d'usagers de la route, là... Je vise les usagers dans le sens large de l'usager, le piéton, le cycliste. On a les ATPM qui sont là depuis un bon moment. Là.
Les quoi?
Les appareils de transport mobile personnalisés, là. Ouais. Les trottinettes électriques, les vélos assistés. Oui, il y a des interventions qui se font au niveau des piétons. Le mois du piéton s'en vient. Le mois des piétons va s'en venir. Il va y avoir des interventions du SPVM.
Parce que le nombre de piétons blessés ou tués est à la hausse. Puis pas juste à Montréal, là, on l'a vu ailleurs au Québec aussi. Là.
Tout à fait. L'an passé, il y avait une surreprésentation, je vais me permettre de cette expression-là, de 20 piétons sur 29 décès dans 28 collisions. Donc, c'est préoccupant. Et oui, parfois, malheureusement, le piéton contribue à causer la collision.
Un cycliste qui reçoit une contravention, il doit être surpris.
En fait, il doit être surpris. Il y a des interventions qui sont faites au niveau cycliste.
Non, mais il s'attend pas. Moi, il y a plein de cyclistes qui me parlent et qui me disent on veut avoir des étiquettes, qui s'occupent des chars et qui nous laissent tranquilles.
Mais en fait, si le cycliste contrevient à une infraction, peut causer une collision. Il faut qu'il soit sensibilisé aussi. Puis il n'est pas impossible qu'il reçoive des contraventions sur le territoire là, s'il commet une infraction.
Mais est-ce que vous en donnez beaucoup?
Il s'en est donné dans l'opération, dans les opérations de la rentrée, effectivement. Là, de quantifier le beaucoup, c'est sûr que c'est moins que des interventions auprès des automobilistes, effectivement.
Merci beaucoup d'être venu, M. Desroches.
Ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu.
Stéphane Desroches est le commandant et chef de la section de la sécurité routière au SPVM. Maintenant, on va aller retrouver Jean-François Lépine parce qu'on surveille de près ce qui va se passer aux États-Unis. Le gouvernement américain pourrait cesser ses activités à compter de minuit samedi, faute de budget. Bonjour Jean-François.
Bonjour Paul.
Alors, c'est pas un phénomène nouveau, on voit ça assez régulièrement, là, une bataille politique qui se conclut par la paralysie de l'État américain.
Ouais, en fait, ça s'est passé 21 fois depuis 1976, et la dernière fois, c'était en 2018 sous Donald Trump. Il y avait 800 000 fonctionnaires qui avaient été mis à pied pendant 34 jours. C'est des crises qui font presque partie de la vie parlementaire américaine, mais il faut pas l'oublier, ça coûte une fortune à l'économie parce que chaque fois, ça peut affecter des secteurs stratégiques comme les transports, le transport aérien en particulier, mais aussi les services aux citoyens qui sont dépendants de l'aide de l'État. Et cette crise-là, ce qui est particulier par contre cette fois-ci, c'est que, on le sait, les républicains ont la majorité à la Chambre des représentants. Et le Sénat a voté, le Sénat qui est majoritairement démocrate, a voté une loi pour repousser l'échéance au 17 novembre prochain. Et les républicains devraient adopter ça pour éviter qu'il y ait une fermeture, un shutdown samedi soir. Le problème, c'est que les républicains qui ont la majorité à la Chambre des représentants, comme je l'ai dit, comprennent une vingtaine de représentants qui sont des militants radicaux. C'est vraiment un groupe qui est un peu très, très autonome au sein de la majorité républicaine et qui a des exigences très différentes et qui, en fait, s'en fiche que le gouvernement ferme ou non. C'est des radicaux qui veulent obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une réduction de toute une série de programmes de dépenses qui ont été adoptés par l'administration Biden, en particulier dans le domaine de l'environnement. Donc, si les républicains n'ont pas le vote de cette vingtaine de radicaux-là, ils ne peuvent pas donc approuver seuls la proposition du Sénat qui permettrait au gouvernement de poursuivre ses opérations jusqu'au 17 novembre. Et pour ne pas avoir l'odieux de provoquer un shutdown, Kevin McCarthy, le leader de la majorité à la Chambre des représentants, parce que les républicains conservateurs ne veulent pas, devant la population, être responsables du shutdown. Donc, pour éviter que ça se produise, les républicains qui veulent adopter la motion du Sénat doivent s'appuyer sur les démocrates pour le faire. Et ça serait terrible au sein du groupe républicain parce que si ça se passait, les fameux radicaux, la vingtaine de radicaux, menacent de tenir un vote sur le leadership de McCarthy et de le forcer à démissionner. Donc, ça serait la fin de sa carrière de leader si ça se passait. Donc, il y a une menace politique interne qui fait en sorte qu'il faut surveiller ce qui va se passer samedi à minuit. C'est loin d'être résolu.
Maintenant, un phénomène très rare s'est produit cette semaine en politique internationale. Un territoire souverain qui disparaît en l'espace de quelques jours. C'est le territoire indépendant du Haut-Karabakh, qui est une enclave avec des Arméniens, des Chrétiens. Et c'est au cœur de l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, c'est une histoire qui peut paraître loin de nous, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler parce que en quelques jours, la semaine dernière et cette semaine, il y a 100 000 Arméniens qui vivaient dans cette petite enclave indépendantiste au sein de la, d'un pays, l'Azerbaïdjan, qui est une ancienne république socialiste soviétique. Cette enclave-là existe depuis des années. Et ces gens-là ont été forcés de quitter, de se réfugier dans l'Arménie voisine, donc qui est un tout petit pays aussi, d'à peine plus de 2,5 millions d'habitants. La population arménienne du Haut-Karabakh, elle est là depuis, je l'ai dit, des décennies. Elle avait même obtenu un statut d'autonomie à l'époque de l'Union soviétique. Et à la chute de l'Empire soviétique, après des tensions et même beaucoup de violence, en 1994, ils ont obtenu, cette petite enclave-là a obtenu un statut, a proclamé son statut d'indépendance unilatéralement. Donc, des Arméniens, en plein milieu de l'Azerbaïdjan musulmane, proclament leur statut. Cette entité-là, là, depuis 1994, s'est entourée de tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a eu beaucoup d'affrontements sporadiques. Et puis, en 2020, il y a une guerre qui a éclaté entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh, l'Arménie voulant protéger ce territoire-là, qui est complètement isolé à l'intérieur de l'autre pays voisin, l'Azerbaïdjan. Donc, protéger ce pays-là, protéger cette minorité arménienne au cœur d'un monde musulman. La Russie, à l'époque, en 2020, il y a eu un cessez-le-feu qui a été adopté par la communauté internationale, et c'est à la Russie qu'on a confié, à l'époque, le mandat de maintenir la paix, faire respecter ce cessez-le-feu. Mais aujourd'hui, on l'imagine, la Russie a d'autres chats à fouetter, comme on dit. La Russie est préoccupée par tout ce qui se passe, par son offensive en Ukraine. Et donc, la Russie a vraiment pas de priorité de ce côté-là. Et c'est ce qui a fait qu'en 24 heures, il y a 10 jours, les forces armées de l'Azerbaïdjan ont profité de ce vacuum de pouvoir-là pour envahir le Haut-Karabakh. Il y avait une milice arménienne qui protégeait cette petite minorité-là, qui a pas pu résister, qui a déposé les armes très rapidement. Et même le gouvernement local, majoritairement arménien, dans cette petite enclave, a mis fin à son existence et à tous ses départements et ses ministères. Donc, en quelques temps, tous ces gens-là ont fui parce qu'il y a un régime autocratique qui leur fait très peur en Azerbaïdjan. Donc, les Arméniens de cette petite enclave ont fui. On a vu les routes complètement bloquées en direction de l'Arménie. Ça a été vraiment une fuite de panique complètement. Et la population de l'Arménie voisine est furieuse contre son gouvernement qui a rien fait pour protéger cette petite enclave indépendantiste. C'est un phénomène unique, mais qui montre, Paul, la vulnérabilité des Arméniens, qui sont un petit peuple chrétien très particulier dans cette région du Caucase et qui a subi dans le passé énormément de problèmes graves. On se souviendra, là, même beaucoup s'en rappellent ça chaque année dans cette région-là du monde et partout dans le monde aussi, le massacre, le génocide des Arméniens en 1915, qui avait été perpétré par la Turquie, un génocide qui a jamais été reconnu, où la Turquie n'a jamais reconnu sa responsabilité. La Turquie, qui est un pays qui appuie l'Azerbaïdjan dans ce qui se passe actuellement. Donc, on voit toute la vulnérabilité de cette population-là dans cette région du monde.
Parlons de la guerre en Ukraine. On le voit, après 19 mois, les données révélées cette semaine montrent que loin de souffrir de la guerre, l'économie russe va connaître en 2023 une croissance plus importante que celle des pays de la zone euro. Ce qui veut dire que la Russie a les moyens, a la capacité de maintenir son offensive en Ukraine.
Ouais, et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine et une surprise relative. Hein. Les chiffres ont été publiés par la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement, qui prévoit une croissance de 1,5% de l'économie russe en 2023. Donc, d'ici à la fin de l'année, là, on va avoir la confirmation de ça, par rapport à 0,8% dans la zone euro. Et tout ça, malgré l'effort de guerre considérable que doit mener la Russie avec son offensive en Ukraine, mais surtout aussi, Paul, c'est ça qui est assez fascinant dans cette situation-là, en dépit de toutes les sanctions internationales qui ont été adoptées pour justement forcer essayer de dissuader Moscou et forcer Moscou d'interrompre son offensive en Ukraine. C'est un signe que les sanctions sont pas efficaces, mais surtout que la Russie a pris les mesures qu'il fallait pour les contourner, ces sanctions-là. Malgré des milliards de dollars d'investissements étrangers qui ont quitté la Russie, malgré les sanctions, malgré la chute du rouble, la monnaie russe, qui a été une des conséquences de tout ça, malgré la montée de l'inflation, parce qu'il y a beaucoup d'inflation en Russie, bien, l'économie russe a survécu, et surtout, quoi, grâce à son pétrole, hein, c'est un grand pays producteur de pétrole, mais aussi grâce aux mesures adoptées par la Banque centrale russe pour soutenir les entreprises en particulier. Ça, c'est une mauvaise nouvelle, donc, pour l'Ukraine, dont la survie budgétaire, elle, de son côté, est exclusivement liée à l'aide des alliés, dont les Américains en particulier. Et une aide, on l'a vu la semaine dernière, entre autres à Washington, qui commence à faiblir. En tout cas, il y a beaucoup de questions de la part autant des politiciens à Washington que certains pays en Europe au sujet du maintien de l'aide à l'Ukraine. Alors, malgré tous ces problèmes-là, Moscou, entre-temps, a réussi à relancer son industrie, sa production de munitions, d'armement en particulier. La Russie, il faut pas l'oublier, elle peut aussi mobiliser beaucoup plus de troupes que l'Ukraine. L'Ukraine, qui a une population équivalente à peu près au tiers de la population russe. Toutes ces données montrent que la Russie, peut-être beaucoup plus que l'Ukraine, a les moyens de durer. Et c'est un constat difficile pour tout le monde, là, surtout les alliés de l'Ukraine et l'Ukraine, après 19 mois de guerre.
En terminant, parlons de la Chine qui connaît, on le sait, des problèmes économiques graves, le secteur immobilier qui est particulièrement touché.
Ouais, la Chine qui commençait à peine à se remettre d'un ralentissement économique qu'elle a connu après la COVID, ben là, c'est une tuile très importante. Qu'est-ce qui se passe? Deux anciens dirigeants d'une des plus grandes sociétés de promotion immobilière au monde, Evergrande, la plus grande société immobilière en Chine, ont été arrêtés par les autorités chinoises. Son PDG est interrogé par la police. Quand ça se passe en Chine, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe de ce côté-là. La compagnie tentait, par tous les moyens, depuis quelques mois, je dirais même depuis 2 ans, de négocier une solution avec ses créanciers étrangers et chinois pour éviter la faillite. Faut dire, Paul, que le secteur immobilier en Chine, c'est plus de 30% du produit intérieur brut. C'est beaucoup trop. Depuis le début de sa révolution économique, la Chine a construit énormément et trop pour stimuler la croissance artificiellement. On a trop construit et souvent avec des soutiens financiers qui sont liés à la corruption. Résultat, on a développé en Chine une bulle immobilière dont Evergrande est un symbole. Si Evergrande devait s'écrouler, hein, et c'est pour ça que probablement le gouvernement chinois est tellement craintif qu'il a arrêté les dirigeants pour essayer d'en savoir encore plus sur ce qui se passe. Si Evergrande devait s'écrouler, d'autres promoteurs chinois suivraient. Le gouvernement serait forcé de venir au secours du secteur immobilier chinois, 30% de l'économie, à coût de milliards de dollars, au moment où la dette publique en Chine dépasse des niveaux records. C'est à surveiller parce que l'économie chinoise a une influence énorme sur l'économie mondiale.
Merci beaucoup, Jean-François. Bon week-end.
Bonne fin de semaine.
C'était Jean-François Lépine. Maintenant, une très, très belle nouvelle, en tout cas un acte de courage d'un jeune garçon de 12 ans qui s'appelle Théo Ferland, qui a réussi à sauver de la noyade un père et ses deux propres enfants. Les deux sont avec nous ce matin. Théo, bonjour.
Bonjour.
Et M. Jean-Pierre Boily, bonjour.
Bonjour.
Théo, raconte-nous d'abord comment tout ça s'est passé, c'est arrivé quand, tu étais où, qu'est-ce que tu as vu?
Mais en fait, on était en bateau. C'était une belle journée. On était à côté du pont de l'île d'Orléans. Sur le petit banc de sable, en fait, il y a un petit banc de sable à côté de l'île d'Orléans.
OK.
Puis là, ben, on était là pour arrêter le bateau, pêcher un petit peu, puis s'amuser autour.
Puis qu'est-ce que t'as vu?
Qu'est-ce que j'ai vu?
Ben, t'as vu qu'il y avait quelqu'un qui était en détresse.
Ah oui, là, on s'amusait autour, puis la petite Alice est partie dans le courant.
OK.
Donc là, j'ai essayé de l'aider, mais j'étais pas capable de revenir. Puis là, Jean-Pierre est venu pour nous aider, mais on n'était pas capable de revenir.
OK, je vais parler à M. Boily. M. Boily, vous étiez avec vos deux enfants.
Oui.
Qu'est-ce qui a mal tourné?
Ben écoutez, là, je vous dirais, là, c'est un moment là, d'inattention. Là, on est arrivé sur le banc de sable pour avoir une belle journée pour jouer dans le sable, pour faire un pique-nique, pêcher. Puis j'étais peut-être un petit peu trop de bonheur. Le banc de sable était là sur le bord de se découvrir de l'eau. Puis on est arrivé au-dessus, on a jeté l'ancre. Les enfants avaient de l'eau au genou à environ. On se promenait, puis. On a peut-être pas assez fait attention, les bancs de sable bougent avec les courants, leur formation, puis d'un moment à l'autre, il y avait une baisseur, et Alice s'est retrouvée là trop profondément dans l'eau, puis moi, on était justement en train de monter les lignes, ils étaient tout près de moi, puis quand je suis allé les chercher, je croyais pas qu'ils étaient en très grande difficulté, je suis allé rapidement comme ça, j'ai pas amené de veste de flottaison, de bouée, c'était très proche. Mais moi aussi, quand j'ai embarqué dans l'eau, il y avait trop d'eau même pour moi. Et donc, dans une 15 secondes, là, tout a basculé.
OK. Puis là, quand vous dites tout a basculé, étiez-vous paniqué? C'était quoi votre réaction? Aviez-vous perdu le contrôle?
Ben oui, vraiment, quand on a embarqué dans l'eau, quand j'ai pris ma fille, quand je me suis rendu compte que moi non plus, je touchais pas dans le fond, le courant était pas si énorme, mais quand on tient un enfant, c'est pas assez pour remonter le courant, puis mon garçon qui était encore sur le banc de sable a pris des vestes de sauvetage, a avancé dans l'eau, venir nous les porter, donc on avait deux vestes de sauvetage pour enfants qu'on tenait dans nos mains, puis tranquillement on est parti à la dérive, mais après quelques secondes, on comprend qu'il n'y a pas vraiment de solution, là. On voit pas comment ça pourrait s'améliorer, il n'y a pas d'issue.
Et toi Théo, qu'est-ce que t'as fait? T'as nagé, c'est ça?
Mais là, en fait, j'étais encore dans le courant.
Uh-huh.
Puis là, ben, il fallait que je nage contre le courant pour regagner le bord de sable. Fait que c'est ce que j'ai fait.
Puis une fois rendu, qu'est-ce que t'as fait? T'as grimpé dans l'embarcation?
Ouais, j'ai sauté sur le bateau, puis là, j'ai essayé de trouver une solution. Fait que là, j'ai commencé par essayer de chercher le cellulaire à Jean-Pierre, voir si je pouvais faire quelque chose, mais je l'ai pas trouvé.
OK.
Donc là, ben j'ai fait des gros signes voir si quelqu'un allait me voir. Gros signes en direction du pont.
OK.
Puis là, ben j'ai jeté les autres vestes de sauvetage à l'eau pour parce que je me suis dit ils vont se rendre à eux.
Mais on dirait que t'es resté calme. Hein? Tu me racontes ça, là, puis t'avais pas l'air paniqué, énervé. T'as beaucoup de sang-froid. T'es resté en contrôle.
Ben, je dis ça tranquillement, mais j'étais vraiment paniquée dans l'événement.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai?
Ah oui.
Racontez-nous ça, M. Boily.
Ben, écoutez, là, je vois le visage, les cris de Théo, là, sur le banc de sable, puis moi qui m'éloigne, puis il était totalement impuissant. J'y ai pensé qu'il pourrait venir me chercher, là, comme ça. Des fois, mon garçon, des fois, vu qu'il a plus l'habitude, mais là, j'ai eu l'idée une demi-seconde, puis je me suis dit, bon, on va oublier ça, c'est pas une solution. Puis Théo l'a fait quand même. Là. Comment voulez-vous?
Ça veut dire qu'il vous a sauvé la vie?
Ah, il a sauvé la vie, plus que la vie, mais dans des situations là, totalement là, improbables. Puis il aurait pu essayer de démarrer le bateau, mais pas être capable de le faire avancer. Il a baissé le pied du moteur, le moteur était relevé. Le bateau était semi-échoué dans un pied d'eau, il y avait l'ancre. Écoutez, il y avait tous les obstacles possibles, là, puis il aurait pu essayer, mais arriver en retard ou me manquer dans le courant. Et tout ça, là, et quand il naviguait vers moi, Théo, ça a pris un certain temps avant ça a peut-être bien pris une grosse minute, là, de navigation, une grosse minute et demie. Mais le bateau allait de gauche à droite, il a fait un 360 sur lui-même. C'était un peu tout aléatoire, mais par hasard, il est arrivé pile sur moi. Pile. Il y avait quelqu'un dans le ciel avec nous autres, ça c'est...
Toi, Théo, tu te sentais comment dans le bateau là quand il bougeait comme ça?
Ben, je me sentais... Ben, tu sais, je me disais, il faut que je continue à avancer. Mais là, c'est pas toujours facile de conduire un bateau dans les vagues, surtout que moi, j'ai jamais conduit ça. Puis là, ben, j'ai juste pris le bateau peut-être une fois dans ma vie, j'ai pas conduit ça. Fait que c'était quand même dur de trouver comme le point où avancer.
Tu as été honoré par l'Assemblée nationale. C'est très courageux ce que tu as fait. Puis tu as juste 12 ans quand même. C'est exceptionnel.
Oui, merci.
Monsieur Boily, ça a dû être des gros moments d'émotion.
C'est des gros moments d'émotion. La fin est heureuse. Ça aurait pu être totalement différent. Mm-hmm. Quand on se replonge, on essaie de pas s'imaginer que ça aurait pu se passer. Donc, c'est pas arrivé.
Tant mieux.
Il faut profiter du moment. Oui.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, tous les deux.
Merci. Merci. Bonne journée.
À vous aussi. Salut Théo. Jean-Pierre Boily, qui était avec ses deux enfants, Alice et Émile. Alice, 8 ans. Émile, 11 ans. Puis c'est Théo Ferland, 12 ans, qui a fait les grandes manœuvres pour être capable de sauver les enfants.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.